Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi tout le monde s'estime sous-payé? Un texte de Jean-François Berthelet, paru le 4 novembre 2025 dans la presse. Estimez-vous que votre rémunération est à la hauteur de ce que vous livrez comme performance au travail? Si vous répondez par la négative, vous vous doutez bien que vous n'êtes pas seul. Les grandes enquêtes internationales le confirment. La majorité des employés s'estiment sous-payés, même lorsqu'ils gagnent un salaire supérieur à la moyenne du marché. Ce constat ne surprendra aucun directeur des ressources humaines qui a dû, avec un grand malaise, faire connaître les derniers résultats du sondage d'engagement des équipes qui montre encore pour une énième année que la satisfaction salariale termine bonne dernière parmi tous les éléments évalués. Si vous suivez l'actualité actuellement, vous remarquerez assurément que plusieurs groupes clament haut et fort qu'ils sont sous-payés. Nous sommes donc devant un paradoxe. Si tout le monde est sous-payé, qui est surpayé? C'est un peu à l'image de nos étudiants qui estiment tous mériter davantage que la moyenne de groupe à l'examen, posant un grand défi aux professeurs lors de la séance de remise des résultats. Comment expliquer ce phénomène? Le phénomène d'égolité. George Orwell disait dans son livre « Animal Farm » que tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que les autres. C'est ce que j'appelle le phénomène d'égolité. Les critères d'évaluation sont égaux et objectifs, mais la perception de notre propre contribution est déformée. Car le cerveau humain a une petite manie. Il gonfle notre contribution et minimise celle des autres. Ce n'est pas de la vanité ni même de l'égoïsme, mais simplement un effet d'optique cognitive. Je vois tout ce que je fais, chaque effort, chaque courriel, chaque idée qui a fait la différence, mais je ne vois qu'une fraction du travail des autres. Résultat, mon cerveau additionne mes efforts en pleine lumière et les leurs dans l'ombre. C'est ce qu'on appelle le biais égocentrique, cette tendance naturelle à croire qu'on a donné un peu plus, qu'on a été un peu plus performant, un peu plus présent. Et comme chacun raisonne ainsi, il devient presque inévitable que tout le monde se sente un peu lésé. Un exemple concret. Dans bien des organisations, le service des ventes est souvent perçu comme un groupe favorisé. Ceux qui travaillent à la production ou à l'administration se disent que ses collègues passent leur journée à parler avec des clients, à écouter de la musique en voiture et à dîner au restaurant pendant qu'eux montent la garde. De leur côté, les représentants voient la situation autrement. Ils vivent sur la route, subissent la pression des quotas, affrontent le rejet des clients et trouvent qu'on ne reconnaît pas les heures passées loin de la maison. Chacun a raison de son point de vue. Et c'est exactement ça, l'égolité. La conviction sincère qu'on en fait un peu plus que les autres, que notre charge est plus lourde, notre stress plus intense, nos efforts plus méritoires. Pas par orgueil, mais parce que l'on connaît intimement sa propre peine et beaucoup moins celle des autres. Est-ce que quand on se compare, on se console vraiment? Il semble que non. Chaque personne voit sa valeur sous son propre prisme déformé. Certains croient qu'ils devraient gagner davantage que leurs jeunes collègues, car ils ont plus d'ancienneté. Le jeune collègue, lui, rétorque que l'expérience ne compense pas la performance et qu'il mérite donc davantage. Bref, ce n'est pas le salaire en soi qui compte dans notre esprit, mais sa comparaison avec les autres. Je ne compte plus les conversations que j'ai eues dans ma carrière avec des travailleurs gagnant un salaire faramineux à faire rêver la majorité d'entre nous, mais néanmoins mécontents car ils ont appris entre les branches que leurs collègues avaient un salaire encore plus élevé. Perception subjective et conséquences objectives. Ce sentiment d'être sous-payé amène des conséquences contradictoires sur la prestation des travailleurs. Il semble que les humains ont une réaction asymétrique face à leur positionnement salarial perçu. Une recherche publiée dans le Journal of Economic Behavior and Organization montre que si une personne qui se considère comme sous-payée tend à réduire son effort pour rétablir son sentiment d'injustice salariale, une personne surpayée ne rembourse pas son salaire injustement trop élevé par un effort supplémentaire. Je suis conscient que je ne serai pas très populaire en invoquant le fait que vous n'êtes peut-être pas si mal payé que ça, finalement. Mais sachez que je le fais pour votre bien, car indépendamment de votre salaire objectif, la perception de ne pas être récompensé à sa juste valeur par rapport à ses efforts apporte des conséquences négatives importantes sur la santé physique et mentale. Une méta-analyse publiée en 2021 a bien illustré que ce sentiment est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de dépression. Si vous en êtes capable, vous pouvez donc maintenir une autoroute à deux voies, prendre soin de votre cœur et apprécier votre salaire, tout en demandant une augmentation avec un certain détachement, si vous pensez vraiment au fond de vous que vous le valez bien. C'était « Pourquoi tout le monde s'estime sous-payé », un texte de Jean-François Berthelet, paru le 4 novembre 2025 dans la presse.
Risques évitables des césariennes. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 novembre 2025 dans la presse. Une technique permettant de gagner du temps à la fin d'une césarienne augmente beaucoup les complications pour les femmes. Des milliers d'Américaines et de Canadiennes ont donc des hystérectomies évitables. Un changement est recommandé par un chercheur de l'Université Laval. Au Québec, ça fait près de 20 ans qu'on a recommandé d'abandonner cette technique rapide de fermeture de l'utérus. Explique Emmanuel Bugeaud, qui est l'un des deux co-auteurs de la revue de littérature publiée vendredi dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology. Mais ailleurs dans le monde, y compris au Canada, la technique rapide prédomine. Les risques surviennent surtout à une grossesse subséquente. Il peut notamment y avoir une rupture du placenta chez une patiente sur 30 et un attachement anormal du placenta dans plus d'une patiente sur 20. Ces problèmes entraînent souvent une hystérectomie, en plus de mettre la vie du bébé en danger. Entre le tiers et la moitié des femmes ayant une césarienne avec fermeture rapide de l'utérus ont aussi des saignements, de l'endométriose et des douleurs pelviennes. La fermeture rapide de l'utérus dure 2 à 3 minutes, contre 5 à 8 minutes pour la méthode traditionnelle, réintroduite au Québec entre 2005 et 2015. Dans la méthode traditionnelle, élaborée au début du 20e siècle, le gynécologue recoud individuellement chacune des trois couches de l'utérus, explique le Dr Bugeaud. On utilise d'ailleurs le nom « technique en trois plans ». La méthode rapide, introduite dans les années 1970, on recoud les trois couches en même temps. Avec la méthode à un plan, on voit une boursouflure à l'endroit où l'utérus a été recousu. Environ 400 millions de césariennes sont faites chaque décennie dans le monde, ce qui signifie que des millions de femmes ont des hystérectomies qui auraient été évitables avec une fermeture plus lente de l'utérus, selon le Dr Bugeaud. La dernière fois que la pratique a été évaluée au Québec, en 2012, seulement 20 % des césariennes étaient faites avec la technique à un plan. Le problème a été aggravé par la popularité croissante des césariennes, dont le taux a doublé à 27 % au Canada depuis 30 ans. Dit le Dr Bugeaud. Le Dr Bugeaud a commencé à travailler sur le sujet lors de sa résidence à Sainte-Justine, dans les années 1990. En 6 mois, on avait eu 3 ou 4 ruptures du placenta. Mon patron m'a demandé de voir pourquoi ça survenait aussi souvent. Il a publié la première étude montrant les dangers de la technique à un plan au début du millénaire. La technique à un plan a été développée dans les années 70 à Dallas, à l'hôpital Parkland. Rendu célèbre par la mort de John F. Kennedy. C'était un très gros hôpital qui faisait 15 000 à 20 000 accouchements par année, dit le Dr Bugeaud. Ils ont voulu optimiser les soins. Au Québec, les plus grosses maternités voient 5 000 accouchements par année. L'engouement pour la technique à un plan a été gonflé par un gynécologue israélien, Michael Stark, qui a mis au point dans les années 1990 une technique permettant de diminuer de moitié la durée totale d'une césarienne, de 40 à 20 minutes, dit le Dr Bugeaud. La technique Stark, aussi appelée Misgave-Ladache, du nom de l'hôpital où le Dr Stark pratiquait, incluait la fermeture rapide de l'utérus développée à Parkland. Il y a de très bonnes choses dans la technique Stark, mais pas pour ce qui est de la fermeture de l'utérus, dit le Dr Bugeaud. Alors que l'utérus refermé selon la technique à trois plans est prêt à accueillir une autre grossesse 9 mois après l'accouchement, il devient plus fragile avec le temps chez les femmes dont l'utérus a été refermé avec la technique à un plan, selon le Dr Bugeaud. En savoir plus, source MSSS. 28% proportion de césariennes au Québec en 2023-2024. 32% proportion de césariennes dans la région plus haut taux au Québec en 2023-2024, le Bas-Saint-Laurent. 11% proportion de césariennes dans la région plus haut taux au Québec en 2023-2024, le Grand Nord. C'était « Les risques évitables des césariennes », un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 novembre 2025 dans la presse.
Comme si nos morts ne valaient rien. Un texte de Fanny Lévesque, publié le 8 décembre 2025 dans La Presse. En faisant don de ses organes, Samuel a permis de sauver 6 vies, un geste d'une valeur inestimable que le gouvernement Legault met en danger avec son intention de dissoudre Transplant Québec pour des raisons d'efficacité, dénonce la famille du donneur. Citation « Quand j'ai vu le projet de loi, j'ai été outré. C'est vraiment venu me chercher. Pour moi, c'est un manque de respect pour les donneurs, pour leur famille. » Fin de citation. Stéphanie Prévost ne décolère pas depuis le dépôt du projet de loi 7 de la ministre France-Hélène Duranceau, qui vise à réduire la bureaucratie et à accroître l'efficacité de l'État. Le texte législatif prévoit la dissolution de Transplant Québec et un transfert de la responsabilité de la gestion du don d'organes à Emma Québec au 1er avril 2026. De voir que des comptables prennent 2 colonnes de chiffres et décident de se foutre de la dignité des donneurs et de leur famille, c'est indécent, dit Stéphanie Prévost. Citation « Comme si nos morts, nos défunts, ne valaient rien. Ils sont juste dans l'administration. » Fin de citation déplore la femme originaire du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Stéphanie Prévost a pris la plume pour demander au premier ministre François Legault et à sa présidente du Conseil du Trésor de retirer Transplant Québec du projet de loi. Transplant Québec s'oppose à sa dissolution aussi abrupte qui mettra des vies en jeu, tandis qu'Emma Québec estime, comme le gouvernement Legault, citation, que cette approche permettrait de mieux encadrer et soutenir les activités de dons et de transplantation d'organes au Québec. Fin de citation. Une lettre poignante. Stéphanie Prévost est d'abord la sœur de Samuel. En compagnie de sa mère Nicole et de sa sœur Raphaël, elle revient sur le chapitre douloureux de la perte de leur super-héros. Samuel est mort dans un accident de voiture à l'âge de 19 ans, le 11 juin 2004. Il avait signé sa carte de don d'organes. Mais entre la mort et le don, il existe un parcours complexe et difficile, et c'est Transplant Québec qui a permis au clan endeuillé de le traverser. Citation, Transplant Québec, c'est une femme qui a quitté son domicile à Québec en coup de vent, à l'heure où le soleil se levait, une travailleuse qui a traversé le parc des Laurentides à toute vitesse, escortée par des policiers bénévoles, pour venir accompagner ma famille et surtout mes parents, tout en douceur, écrit Mme Prévost dans sa lettre au premier ministre. Citation « En plus du volet médical, c'est une mission humaine. Elle est à la fois délicate et essentielle. Elle exige une expertise clinique, mais par-dessus tout, une expertise psychologique et éthique hors du commun. Je me souviens encore de l'odeur du parfum de la coordonnatrice. » Fin de citation, explique Madame Prévost, 20 ans plus tard. Étouffée par les sanglots, elle ajoute, citation, « Je ne voulais pas que mon frère donne ses organes parce que moi, j'y croyais, au miracle. Les obstacles psychologiques au don d'organes sont forts », relate-t-elle, fin de citation. C'est grâce au soutien de Transplant Québec qu'elle s'est faite à l'idée. Citation, « Je me souviens qu'elle m'a prise dans ses bras. Le fait qu'elle me laisse pleurer sur son épaule, qu'elle me laisse absorber le choc, qu'elle me perce pratiquement comme un bébé, ça m'a apaisé. » Se souvient Madame Prévost, fin de citation. Perte d'expertise anticipée. Celle qui milite en faveur du don d'organes depuis la mort de son frère craint que cette expertise et cette « agilité », entre guillemets, 24 heures sur 7 jours, se perdent en transférant les responsabilités à une société d'État de 2000 employés. Je m'excuse, mais agilité ne rime pas avec appareil gouvernemental, dit Stéphanie Prévost. Citation, « Je donne mon sang et mon plasma, je sais que leur expertise est exceptionnelle. Cependant, ce que j'ai vécu grâce à Samuel et sa volonté d'être donneur d'organes m'a dévoilé une réalité totalement différente, d'une complexité parfois insupportable », écrit Madame Prévost. Le travail des quelque 70 professionnels de Transplant Québec, citation, ne ressemble en rien à celui d'Emma Québec. C'est un travail qui se fait avec des familles brisées, en état de choc, en mode de survie. Des proches qui peuvent changer d'avis plusieurs fois, submergés d'émotions contradictoires et douloureuses, dans un système complexe où chaque minute compte. Fin de citation. Cette dissolution pourrait avoir des effets sur le nombre de donneurs et provoquer une crise de confiance envers le nouveau système, selon elle. Transplant Québec a chouchouté son clan pendant de longues heures ce jour-là et dans les années qui ont suivi la mort de Samuel, lors d'activités avec des familles de donneurs et de greffés. Autant de moments qui ont aidé sa famille à faire le deuil de Samuel. Citation, tout ça a donné un sens à la mort de mon fils. Laisse tomber sa mère, Nicole Prévost. C'était « Comme si nos morts ne valaient rien », un texte de Fanny Lévesque, publié le 8 décembre 2025 dans La Presse.
Affaiblir la surveillance des pesticides met les Canadiens et leur environnement en danger. Un texte de Mathilde Louise Tissier, Laura Melissa Guzman, James Luthwaite et René Chameau-Hamadlou. Publié le 10 décembre 2025 dans Le Devoir. Il y a plus de 5000 pesticides enregistrés au Canada. Ces produits sont utilisés pour protéger les cultures des ravageurs et pour maximiser les rendements. Leur surveillance et leur encadrement sont essentiels, non seulement pour la faune et les écosystèmes, mais également pour la santé des Canadiens, particulièrement des agriculteurs qui font régulièrement face à une exposition directe. Actuellement, le gouvernement fédéral réévalue périodiquement tous les pesticides sur le marché afin de confirmer leur innocuité. Cependant, l'annexe 5 du budget 2025 propose de supprimer les réévaluations cycliques des pesticides et faciliter ainsi une surveillance moderne fondée sur le risque. La réévaluation cyclique est la pierre angulaire du maintien de la sécurité des pesticides. Elle permet l'intégration périodique de nouvelles connaissances après l'approbation d'un produit. En tant que scientifique travaillant sur les effets des pesticides sur les pollinisateurs ou sur les troubles comportementaux et sanitaires liés à l'utilisation des pesticides, nous sommes préoccupés par la suppression de ce pilier de la loi sur les produits antiparasitaires. Sans plus de détails sur ce qui le remplacera, nous craignons un affaiblissement des mesures de protection de la santé humaine et de l'environnement. Il est difficile de quantifier avec précision le fardeau sanitaire des pesticides au Canada. Les évaluations rigoureuses de l'Organisation mondiale de la santé ou de l'Autorité européenne de sécurité des aliments établissent de manière croissante de nombreux liens entre exposition chronique aux pesticides et problèmes de santé. Cela inclut des troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson, plusieurs cancers, l'infertilité et les malformations congénitales. À l'heure où la communauté scientifique et les institutions de santé reconnaissent les liens étroits entre la santé humaine, animale et environnementale, le Canada ne devrait pas affaiblir l'un des rares systèmes conçus pour détecter les risques émergents. Les conséquences à long terme sur la santé ne sont généralement pas détectées par les recherches à court terme que les fabricants sont tenus de mener avant l'autorisation de mise sur le marché d'un pesticide. La plupart des effets ne deviennent apparents qu'après l'utilisation en conditions réelles du produit. L'exemple le plus tristement célèbre est celui du DDT, l'un des composés les plus dévastateurs jamais approuvés. Il a fallu presque 30 ans avant qu'il ne soit interdit et plus d'une décennie supplémentaire avant l'arrêt de son utilisation. Le DDT a été introduit à une époque où les systèmes de réévaluation et de protection, tels qu'on les connaît aujourd'hui, n'existaient pas. Un exemple plus récent est celui des néonicotinoïdes, un groupe de pesticides introduit dans les années 1990 pour protéger les rendements des insectes ravageurs de cultures, mais qui a également eu des effets dévastateurs sur les abeilles et autres pollinisateurs. La majorité des recherches réalisées après la mise sur le marché d'un produit, sont indépendantes de l'industrie des pesticides. Elles sont souvent menées par des universités, des scientifiques gouvernementaux et des organismes publics. Ces recherches indépendantes évaluent les risques liés aux pesticides dans des conditions réelles, avec une exposition environnementale réaliste et en utilisant les dernières technologies. Cela prend du temps. Une fois dans l'environnement, les pesticides se dégradent, se transforment ou persistent d'une manière qui peut être difficile à prévoir au moment de leur homologation. Les pesticides peuvent générer de nouveaux sous-produits lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil, à l'eau ou à des micro-organismes. Ils peuvent s'accumuler dans les plantes ou se déplacer sur de longues distances dans les sols et les cours d'eau. C'est pourquoi une réévaluation périodique de leur dangerosité, fondée sur des preuves, est nécessaire. Elle garantit l'actualisation des dispositifs de protection en réponse à l'identification de nouveaux dangers. La réévaluation cyclique des pesticides est effectuée tous les 15 ans par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ARLA, de Santé Canada. Avec des milliers de produits homologués et les ressources limitées de l'ARLA, il est inévitable que le système accumule du retard. Et on peut comprendre que des adaptations soient proposées. Mais les enjeux sont trop élevés pour que des modifications législatives majeures soient brièvement inscrites dans une annexe budgétaire sans explication claire sur la manière avec laquelle les risques seront évalués pour tous les pesticides. Quelles données seront requises ou qu'est-ce qui déclenchera une réévaluation? Les Canadiens méritent une transparence totale sur la manière avec laquelle leur santé et leur environnement seront protégés. Les signataires sont respectivement chercheuse au CNRS et professeur associé à l'UQAM, professeur agrégé au département d'entomologie de la Cornell University, candidate Lieber Aero Fellow au département de biologie de la Carleton University et département d'entomologie de la Cornell University. Stagiaire postdoctoral NSERC à la School of Biological Sciences de la Washington State University. C'était « Affaiblir la surveillance des pesticides met les Canadiens et leur environnement en danger ». Un texte de Mathilde-Louise Tissier, Laura Mélissa Guzman, James Lutwaite et René Chamoha-Madlou, publié le 10 décembre 2025 dans Le Devoir.